Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business et 01 TV présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour De quoi je me mêle. Comme chaque semaine, on est là, vous le savez, sur les applis, l'appli BFM Business, l'appli d'RMC aussi, sur 01 TV, la chaîne, sur les box, sur YouTube, mais aussi 01net.com et le dimanche sur BFM Business. Voilà, si avec tout ça vous nous ratez, c'est que vraiment vous n'aimez pas la tech. On est très heureux, je suis très heureux de vous retrouver avec au menu pour ce dernier De quoi je me mêle de la saison, avec avant quelques semaines de congé, on sera là de retour pour le dernier week-end d'août. Et bien pour ce dernier numéro, on reviendra sur le tourisme spatial qui prend son envol, hein, c'est le cas de le dire, avec Branson qui le 11 juillet réussit cet exploit, hein, ce premier vol suborbital. Bezos qui arrive dans quelques jours, où en est Elon Musk? On fera le point tout à l'heure avec Antoine Meunier qui est un spécialiste du sujet qui est passionnant, il est journaliste à la chronique spatiale, il va tout nous dire, ça sera dans la deuxième partie de De quoi je me mêle. Je vous rappelle toujours la page Facebook, Twitter, si vous voulez nous suivre avec le hashtag DQJMM. Merci d'être là, bienvenue à vous tous. Et bien sûr, De quoi je me mêle, c'est pour débuter le meilleur de l'actu tech de la semaine. Et c'est avec nos meilleurs commentateurs. Nicolas Lelouch est là. Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous, bonjour François.
Journaliste à 01net.com et Raphaël Grably aussi. Bonjour Raphaël.
Salut François, salut Nico.
Toujours un plaisir de vous avoir tous les deux. Raphaël, que vous pouvez lire sur BFM Tech et retrouver aussi sur BFM TV, BFM Business et dans De quoi je me mêle aussi. Messieurs, l'actu ne s'arrête pas pendant les vacances, en tout cas pendant cette trêve estivale, on le voit. On va parler des rumeurs concernant l'iPhone 13 qui commence à se profiler. Il faut dire que ça va vite arriver, hein, cette histoire-là. Hein. Ça sera en septembre. On va parler aussi de la Ligue 1 qui arrive sur Amazon, de Samsung qui va sans doute, en plein cœur, dans la torpeur de cet été, nous sortir de nouveaux smartphones. Mais pour débuter, c'est Netflix. On en avait déjà parlé. Hein. C'est une rumeur qui plane depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Netflix aurait dans les cartons, en plus de ces séries, de ces films, de ces docs, une offre de cloud gaming qui commence sur ce sujet.
Allons-y,
Nico, et puis Raph sera là en renfort.
Ok, alors, c'est vrai que c'est une rumeur qui est assez récurrente ces derniers temps. On dit que Netflix veut se lancer sur le secteur du jeu vidéo. On ne savait pas trop comment. On parlait beaucoup d'un concurrent d'Apple Arcade, par exemple, donc un abonnement qui vous proposerait de télécharger des jeux, mais aussi un service de cloud gaming, du streaming. Et on se demandait, mais pourquoi Netflix veut se lancer dans le monde du jeu vidéo? Et depuis quelques heures, grâce à un article de Bloomberg, on en sait un petit peu plus sur les intentions de l'entreprise de Reed Hastings. Et en fait, le constat de Netflix est assez simple. Ses rivaux, ce n'est pas Disney+, HBO Max ou Amazon Prime Vidéo, mais c'est le temps. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que les gens
passent... Ils sont au-dessus de la mêlée, les gars.
C'est pas la première fois qu'ils disent ça.
C'est hyper intéressant de la stratégie Netflix.
Et c'est surtout montrer qu'en fait, ils ont vraiment du recul par rapport à tout ça.
Exactement, ils sont en position
de premier.
Il avait même dit, mon ennemi, c'est un peu le sommeil, en fait, à un moment donné.
Exactement, ils sont premiers sur ce secteur. Ils sont pas tellement inquiets de l'arrivée de la concurrence.
C'est eux qui financent le Buronzan, par exemple.
Tu as lancé des rumeurs, arrête.
Non, attendez, c'est pas la peine. Hein.
Ce que se dit Netflix, c'est que les gens passent de plus en plus de temps à jouer aux jeux vidéo, que le cloud gaming va potentiellement avoir un impact dans ce sens. Le jeu mobile, évidemment, est très populaire. Donc pourquoi pas, à côté des films et des séries, rajouter un onglet jeux vidéo directement sur Netflix, gratuitement, a priori, ça serait directement inclus dans les offres Netflix actuelles, qui vous permettrait de jouer à des jeux qui seraient à la fois des jeux connus, mais aussi des jeux dérivés de certaines séries. Ça pourrait être du contenu interactif, ça pourrait être, on parlait notamment d'une adaptation de Stranger Things en version jeu vidéo. Tout ça, ça arriverait en 2022, donc c'est quand même très rapide. On a assez hâte de voir à quoi ça va ressembler. Ce qu'on sait grâce à Bloomberg, c'est qu'il y a eu deux recrues de taille que Netflix a réalisé ces derniers mois. C'est Mike Verdu, qui était responsable du développement du jeu vidéo chez Facebook, qui travaillait sur Oculus, et un ancien responsable d'Electronic Arts. Et les deux, en fait, vont superviser toute cette division jeux vidéo. Donc ça arrive, c'est plus du tout des rumeurs. Va y avoir des jeux sur Netflix.
Après, Raphaël, c'est un challenge important parce que ce n'est pas le métier de Netflix. Le métier de Netflix, c'est de produire du contenu, etc. Le jeu vidéo, c'est un autre business, un autre modèle.
Mais justement, moi, ce qui me branche bien dans cette histoire, alors oui, il y a le côté offre commercial, est-ce qu'il y aura un catalogue façon Apple Arcade, etc. Mais Netflix, comme tu dis, c'est un producteur de contenu. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir Netflix produire des jeux vidéo, pas seulement les proposer et les intégrer, les produire. Parce que quand on voit ex-Oculus, ex-Electronic Arts, ça veut dire peut-être de la production. Et quand on pense à Oculus, tu dis des produits, des jeux dérivés. Et un jeu dérivé d'une série en réalité virtuelle, avec Netflix, je trouve que ça correspond parfaitement. Quand on voit ce qu'ils ont fait avec Black Mirror, finalement, c'est un peu le même esprit. Avec le film Black Mirror, avec plusieurs scénarios, etc., interactifs. On peut très bien imaginer un prolongement en réalité virtuelle.
Oui, toutes les franchises en fait, qui cartonnent sur Netflix pourraient avoir leur déclinaison jeu vidéo.
Inversement, déjà on voit The Witcher par exemple sur Netflix, donc il y a déjà quand même une proximité. Mais c'est vrai que je vois bien Netflix faire du jeu vidéo, pas demain concurrencer forcément du Stadia directement, mais peut-être faire d'abord de la production avec du jeu vidéo, pas de gamer, mais
des jeux web.
Voilà, des jeux web, des jeux en réalité virtuelle. Et le truc, c'est que ce qui est sympa, c'est que Netflix, vu les budgets colossaux qu'ils ont, je veux dire, tout de suite, on va arriver sur des contenus qui vont être forcément très qualitatifs. Mm-hmm. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Après, la question, c'est sur la présentation, sur la commercialisation, sur le prix, parce que forcément, alors tu dis que ça peut être inclus, mais bon, c'est...
Ça pourrait être inclus dans un premier temps.
Inclus, voilà, au bout d'un moment, chez Netflix...
Parce que Netflix, ils n'ont pas de tabou. Hein. Tous les deux ans, ils augmentent leur tarif.
Donc, en général, quand c'est inclus, derrière, on finit par le payer, mais ce qui est totalement normal. On a un service en plus, c'est normal de le payer. Hein. Oui. Mais je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et voilà, je ne sais pas si ça va être une concurrence directe avec du jeu console, du jeu PC. Je vois bien ça, moi, comme un prolongement de plus en plus naturel de leur production audiovisuelle.
Après, moi, je vois un problème, Nicolas, excuse-moi, mais ça ne va pas marcher partout. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'allume ma télé. J'ai Netflix. Mais demain, je ne vais pas forcément pouvoir jouer avec ma télécommande. Je n'ai pas envie de jouer avec ma télécommande. J'ai envie de jouer avec une manette de jeu. Mmh. Et ma manette de jeu, je ne vais pas pouvoir la paire à ma télé. Elle n'a pas été conçue pour ça.
C'est toute la question. Tous les supports ne seront pas compatibles, c'est évident. De la même manière
dire,
que...
Ça va être assez clivant.
Mais l'épisode interactif de Black Mirror n'était pas compatible avec certains équipements de télé non plus. Ça dépend en réalité du système d'exploitation que vous utilisez, de la mise à jour de Netflix que vous utilisez. Donc il y aura forcément des limitations. Moi, j'allais dire aussi que l'autre problème qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qui va se passer sur les plateformes d'Apple qui bannit complètement le cloud gaming. Apple considère que si vous proposez des jeux dans une application, eh bien ce n'est pas possible, vous devez soumettre chaque jeu séparément sur l'App Store. Donc on fait quoi face à Netflix? Ils dégagent Netflix de l'App Store? À quoi ça va ressembler? Est-ce que ça sera une application Netflix Gaming séparée? Mais dans ce cas-là, ça ne fonctionnera pas parce que le concept d'un catalogue Apple n'en veut pas. Il va y avoir plein de problèmes légaux, techniques justement à ce système. Tu parles des manettes, mais on peut se demander aussi de la distribution, comment ça va fonctionner. Donc ça risque d'être assez passionnant ce virage, tout en rappelant que Netflix ne va pas devenir une entreprise de jeux vidéo à part entière. Ça reste série, film, mais c'est une entreprise qui veut tout distribuer, qui veut toucher à tout, qui a un petit peu fait des expérimentations en direct ces derniers temps. Peut-être qu'un jour, elle se lancera sur le sport, mais ça va être assez marrant de voir comment Netflix va réussir à se diversifier.
Netflix qui investit 1% de ses investissements en jeux vidéo, de fait, c'est déjà un géant de jeux vidéo. Donc c'est ça qui est intéressant.
C'est 17 milliards de budget de production chaque année, donc c'est vrai, 1% de 17 milliards. C'est déjà pas mal. Je ne sais pas combien ça fait, ça fait combien? 170
170 millions.
Voilà.
Ouais. Bah, c'est déjà sympa.
C'est déjà pas mal.
On
va suivre ça de près, c'est intéressant, mais c'est vrai qu'on pourrait retrouver Netflix sur son PC, par exemple, où on peut appareil manette, on pourrait retrouver sur les consoles de jeux, parce qu'il y a l'appli Netflix sur les consoles de jeux. Mais est-ce que Sony va laisser Netflix mettre à jour son appli pour avoir du jeu qui concurrencerait Sony? Enfin, il y a plein de questions.
Ça pose plein de questions.
Ça pose plein de questions et c'est vrai que ça s'annonce passionnant. On aura plein de trucs à raconter là, bientôt. Autre truc aussi qui va sans doute nous occuper à la rentrée, les amis, c'est le nouvel iPhone, l'iPhone 13. Le 13, c'est un peu...
Qui devrait s'appeler 13, a priori.
Qui devrait s'appeler 13, quand même.
Je vais laisser Nico développer, parce que je pense que tu es plus...
Oh, je pense que tous les deux, ça devrait aller sur ce sujet.
Bon,
hein.
Déjà, il y a eu des rumeurs, là, ces derniers temps, concernant l'iPhone 13.
Ce qui est bien avec Apple, c'est que les rumeurs, on les a quasiment 3 ans en avance, parce que c'est une entreprise qui prévoit tellement, qui anticipe tellement sur ses commandes en composants, que c'est pas compliqué de deviner ce qui va arriver.
Ils appuient pas sur le bouton 3 mois avant.
C'est pas possible.
Vu les volumes.
On a bien vu avec la pandémie, c'est pas la pandémie qui fait qu'Apple a changé son calendrier et a ajouté une fonction à un produit. C'est pas comme ça qu'il fonctionne. Ils savent ce qu'ils vont faire en avance. Sur ces iPhone 13, on parlerait pas d'une révolution majeure, parce que ça serait des évolutions des iPhone 12. Le design serait à peu près conservé, parce qu'il y aurait par exemple une évolution par exemple dans la taille des modules caméra. L'encoche pourrait être un petit peu plus petite sans être complètement éliminée, mais ça, encore une fois, c'est pas sûr. Maintenant, sur le design, on a longtemps parlé d'un capteur d'empreinte sous l'écran. A priori, ce sera pas le cas. C'était pas vrai. Il y avait des rumeurs qui disaient oui, des rumeurs qui disaient non. Généralement,
ça veut dire que c'est assez décevant quand même.
Et il y en aurait pas sur ce iPhone 13. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a appris cette semaine qu'Apple aurait commandé 90 millions d'iPhone pour la fin d'année, 90 millions d'iPhone 13, alors qu'habituellement, c'est plutôt autour des 70-75 millions. Ce qui veut dire qu'Apple imagine que, peut-être que c'est le côté post-pandémie, en espérant qu'on soit sur une phase post-pandémie à cette période, Apple imagine que les gens vont se ruer vers son nouvel iPhone, qu'il va y avoir une vraie demande de renouvellement, et qu'on va donc se retrouver avec un gros carton, encore plus que les iPhone 12 et iPhone 11, qui ont déjà permis à Apple de remonter très haut au classement des meilleurs smartphones du marché.
Alors, ce qui est intéressant, Raphaël, c'est que voilà, ces prévisions de commandes sont énormes chez Apple. Et en général, c'est pour les nouvelles générations d'iPhone. C'est pas pour les entre-deux. L'année dernière, on avait un iPhone 12 qui était en rupture par rapport au 11. Ouais. Là, le 13, visiblement, serait un peu le 12S. Le 12S, en quelque sorte.
Hein.
Et malgré tout, ils projettent d'en vendre plus.
Bah, moi, je vois deux explications. Premièrement, peut-être la fin de la version mini.
A priori, ce n'est pas au programme cette année. Hein.
Alors,
ce serait pour l'année d'après.
Voilà, moi, j'aimerais qu'il y ait un mini.
Ce n'est pas au programme. C'est-à-dire qu'il y aurait encore un iPhone mini encore.
Les tailles ne changeraient pas cette année.
Voilà, ils garderaient le même line-up avec iPhone 13 mini, 13 et 13 Pro.
Tout ça, c'est ce que tu expliquais, c'est l'inertie qu'a Apple. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas annuler quelques mois avant un iPhone mini parce qu'il est prévu depuis des mois.
Exactement.
Et des mois.
Et on parle déjà pour l'iPhone 14 du remplacement de l'iPhone mini par un grand iPhone, mais qui ne serait pas Pro. Donc, c'est un iPhone Max.
D'accord.
Mais après, il y avait cette hypothèse, mais effectivement, comme tu dis, qui est peu probable, c'était s'il n'y avait pas de mini, peut-être, du coup, faire un peu plus de stock de 13. Mm-hmm. Mais il y a autre chose, c'est aussi le déploiement de la 5G qui prend... Voilà, la 5G, là, a passé la seconde, j'ai envie de dire, surtout sur des marchés clés comme l'Europe et évidemment les États-Unis, parce qu'en Chine, la 5G, c'était déjà là l'année dernière. Mais moi, je pense que cette période de 5G, de vraie ouverture de la 5G, fait peut-être qu'Apple mise sur un renouvellement un peu plus important et sur des ventes plus importantes, en plus de la pandémie. Pour moi, c'est peut-être un effet 5G, parce qu'effectivement, passer de 70 à 90 millions, c'est pas rien du tout. Hein. Enfin, je sais pas combien ça fait, ça va faire 20%, quoi. Enfin, un truc comme ça, pas loin, même plus. Donc clairement, après, sur le design, clairement, on n'attend pas de grosses nouveautés. Mais j'ai envie de dire...
Tant mieux, le 12.
En fait, j'ai l'impression, je trouve, qu'Apple est arrivé à un design presque parfait. Alors oui, l'encoche pourrait être plus petite, etc. Mais quand je reprends un peu les anciens iPhones, notamment l'iPhone 10S, l'iPhone 11, etc., sur l'aspect arrondi des tranches, par exemple, je trouve qu'on a du mal à revenir en arrière. Du coup, ça glisse énormément entre les mains. Et ce qu'a fait Apple, ce mélange finalement entre les derniers iPhones et un côté rétro de l'iPhone 4, qui avec les tranches plates, je trouve qu'on est arrivé sur un form factor qui est absolument redoutable, qui est pour moi hyper abouti. Et c'est vrai, par exemple, que je trouverais ça vraiment dommage qu'Apple remette de l'arrondi sur les tranches. C'est tout bête, mais je trouve que et j'ai l'impression qu'il y a une unanimité là-dessus. Déjà, au niveau design, c'est sympa. Il y a un côté presque rétro qui est très sympa. Mais en plus, pour la prise en main et au quotidien, c'est vraiment très agréable. Et je trouve qu'ils ont fait une évolution qui est discrète, mais qui est assez discrète, mais assez radicale finalement dans l'impression qu'on a. Et c'est vrai que changer un design, à part faire peut-être disparaître l'encoche, ce qui ne sera pas le cas parce que ça coûterait très cher et ce serait très compliqué en termes d'intégration du capteur photo, Voilà, mais
après, malgré tout, il faut quand même qu'il y ait quelques nouveautés, parce qu'autrement, personne ne va l'acheter, cet iPhone.
Forcément.
Il faut quand même qu'il y ait des améliorations en termes de photos. On parle aussi de cette recharge inversée, par exemple, pouvoir recharger les AirPods en posant en les posant sur l'arrière du téléphone. C'est pas nouveau, hein. Ça fait des années que ça existe chez les Chinois.
Ouais, c'est 4 ans, je pense.
C'est l'objet de rumeurs depuis 2 ans chez Apple, et ça aurait dû... on annonçait déjà ça pour l'iPhone 11. Donc peut-être que ça arrivera avec cette génération.
Mais même si, à mon avis, ça n'a pas beaucoup de pertinence.
C'est vrai qu'on ne connaît pas vraiment, il n'y a pas énormément de rumeurs.
Millions d'iPhone en plus.
Ça, c'est clair. Mais il doit avoir quelque chose quand même. Il doit avoir
forcément,
quelque chose.
Forcément, il doit avoir des choses. Notamment, on parle sur les modèles Pro, mais là, on ne parle que sur les modèles Pro, des fameuses dalles LTPO dont on a parlé avec les smartphones haut de gamme Android cette année. Donc c'est ces dalles qui permettent un taux de rafraîchissement adaptatif,
ouais,
qui permettent donc d'aller à 120 Hz,
oui,
enfin sur les iPhones, et de descendre potentiellement à 1 ou 10 Hz. Apple aime bien le 1 Hz, donc peut-être qu'ils vont tenter d'aller aussi bas pour économiser complètement la batterie et potentiellement avoir l'heure tout le temps affichée sur l'écran de l'iPhone, ce qu'Apple n'a jamais fait alors que les autres le font quand même depuis longtemps.
Il faut dire qu'Apple, comme tu dis, passer 70 à 90, il y a la 5G, mais il y a aussi une situation, en ce moment, ils sont dans une fenêtre incroyable où il n'y a plus de Huawei, où Oppo est en phase d'ascension, mais clairement n'a pas encore l'image de marque de Huawei sur les marchés, sur les marchés occidentaux. Et donc, on se retrouve...
Il y a Samsung toujours qui est là.
Alors, non, mais c'est ça. En fait, on se retrouve dans une situation
d'Apple-Samsung
telle qu'on l'avait
il y a 6, 7 ans.
Et donc, c'est vrai qu'ils se retrouvent dans une fenêtre absolument incroyable, comme Samsung. Mais au contraire, moi, je trouve, on va en parler de Samsung. Moi, je trouve que Samsung, là, c'est un peu endormi aussi. Et je pense qu'Apple a une fenêtre incroyable où il n'y a plus de Huawei et Oppo n'est pas encore monté. Et donc, je pense que aussi, peut-être, le delta de production s'explique par ça.
Enfin, cela dit, Samsung s'est endormi, mais dans le top 10 des meilleurs smartphones du moment sur le classement 01net, c'est le S21 Ultra qui est le meilleur dans ce classement.
Ça reste un des produits les plus complets. Samsung a tendance, c'est ce qui est assez dommage avec cette entreprise, de faire à la fois les meilleurs et à la fois les plus grosses exceptions. C'est-à-dire que le top du top chez Samsung, il est rarement décevant. Par contre, sur le milieu de gamme, les gammes Galaxy A, par exemple, on a l'impression qu'ils essayent de faire des économies par rapport à Xiaomi ou Oppo.
Mais
par
le problème de Samsung, c'est que quand on regarde les volumes, ok, le S21 Ultra, il est sur le papier et dans les tests,
c'est pas incroyable.
Mais le smartphone, le smartphone moyen, comme tu dis, c'est du smartphone à 400 €. Mais même si on veut parler de l'iPhone 12, on parle de smartphone à 1 200 €. Or, là où il faut vraiment faire mal à Apple, si on est Samsung, c'est sur le smartphone à 800 €.
Bien sûr.
Donc, c'est sur le S21. C'est pas du tout sur la gamme Ultra
et le S20 FE
qui est parfaite, je veux dire. Et là, c'est un peu une autre paire de manches.
Non, mais Apple a vraiment bien rattrapé son retard ces dernières années sur ce secteur.
Bon, comme vous êtes chaud bouillant, les amis, on va maintenant parler d'un chiffre, 13 € par mois. 13 € par mois pour pouvoir se régaler de 80% des matchs de Ligue 1. Ça y est, on en sait beaucoup plus sur l'offre que va proposer, là, dans quelques jours, ça commence le 1er août. Eh bien, Amazon, puisque vous le savez, pour 250 millions, Amazon s'est offert 80% des droits de la Ligue 1. On attendait avec impatience, avec frilosité et fébrilité le prix de l'abonnement. Ben voilà, ça y est, on le sait, c'est 13 €. Raphaël, 13 €, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, c'est 13 € si on est abonné à Prime.
Oui, c'est une option.
C'est 13 € si on est abonné à Prime.
Oui, en effet. Sinon, en fait, le vrai prix, c'est 19 €.
C'est ça.
Parce qu'il faut rajouter
les 6 euros par
mois de Prime. Après, comment on analyse
ça? Un peu moins si on l'achète sur l'année, je crois.
Oui, sur l'année, c'est 50 € par an, plus les 13 € par mois.
Bon, on va dire qu'on est à
17 € par mois.
Ça fait 18.
18 € par mois. Alors, c'est très compliqué de comparer.
MediaPro, c'était 25.
Voilà. Mais il y avait plus de contenu aussi. Il y avait MediaPro.
Mais tu n'avais pas les films et les séries.
Mais footballistiquement parlant.
Donc c'est pour ça, en fait, on ne peut pas comparer.
Là, je suis en train de bien vous tordre le cerveau, les amis. Parce que, en fait, vous étiez là en train de vous dire oui, c'est cher et tout. Mais finalement, pour 18, j'ai 80% des matchs.
Je sais que Nico n'est pas fan. Moi, je trouve que cette offre est très bonne.
J'ai 80% des matchs, mais j'ai aussi des séries et des films.
Exactement. En fait, le truc, c'est qu'on ne peut pas comparer cette offre avec celle de Téléfoot. C'est impossible parce que ce n'est pas la même offre. Mais par contre, je suis désolé, avoir aujourd'hui la Ligue 1 pour 18 € avec le catalogue Amazon Prime, qui est quand même, même si l'application est toujours aussi pourrie, mais le catalogue qui est quand même vraiment sympa.
Espérons qu'il a rafraîchi d'ailleurs à cette occasion. Hein,
mais le catalogue qui est vraiment sympa.
De la musique avec Prime.
De la
Prime
musique, même s'il a encore l'application, c'est pas dingue, mais encore une fois, on a les contenus.
Ah, moi j'aime bien Prime Music.
C'est moins pire que Prime Video.
Alors on n'a pas le choix de Spotify, mais on a quand même pas mal de musique. On a du cloud pour les photos. Moi, je suis abonné pour tout voir. Raconter, hein, je suis abonné à Prime, j'ai arrêté mon Google Photo parce que
je suis passé chez Amazon
et dans votre abonnement à 50€ par an, vous avez le stockage illimité des photos en pleine résolution.
Mais c'est pas mal.
Amazon Prime est super complète.
Et après, il faut voir dans sa globalité. C'est sûr que si on n'est que fan de foot, qu'on commande jamais sur Amazon, qu'on déteste les séries, les films, etc., ça fait peut-être un peu cher, 18€.
Non, mais le but d'Amazon, c'est que les fans de foot.
Mais c'est une bonne affaire finalement.
Le but d'Amazon, c'est clairement mieux rapport qualité-prix que téléfoot. C'est un supplément, hein. C'est-à-dire que le supplément coûte deux fois le prix de l'abonnement Amazon Prime qui inclut déjà tout ce dont on a parlé.
Mais c'est vraiment du super premium, quoi. Enfin, la Ligue 1, ça coûte beaucoup. Enfin,
par rapport à du Canal Plus ou du téléfoot, mais c'est encore une fois, c'est très compliqué.
Nico rêvait secrètement que ce soit compris dans le prix d'Amazon Prime.
Moi, je pensais que ça serait gratuit et je me suis complètement trompé. Quand on voit la stratégie qu'a adoptée Amazon en Angleterre, en Allemagne, dans les endroits où ils proposent des droits sportifs, même en France avec Roland Garros, c'est toujours un produit d'appel qui vous permet en fait de vous abonner à Amazon Prime à 6€ par mois, à 8€ par mois en fonction des pays, et au final, à commencer à consommer sur Amazon et à découvrir les nouveaux produits. Je ne voyais pas pourquoi ils auraient fait payer.
Ils ont vu qu'il y avait Sergio Ramos qui est arrivé, ils se sont dit là, on va.
Mais au final, le prix n'est absolument pas volé. Au contraire, c'est quasiment l'offre la plus abordable qu'on a eue ces dernières années.
En fait, c'est vrai qu'on est déçus parce qu'on est habitué à être des enfants gâtés, j'ai envie de dire, avec Amazon, à avoir, c'est vrai, des choses pour pas très très cher. Et on se disait, bon, bah génial, on va avoir en plus les gains. Non, faudra payer. Mais après, si on regarde ça de façon froide et en comparant avec ce qui existe et ce qui existait, je trouve que la Ligue 1 n'a jamais été aussi abordable depuis très longtemps. Voilà. Après, le but d'Amazon, c'est évidemment de faire des fans de foot des gens qui commandent sur Amazon. Ça, c'est toujours la même chose. Et c'est vrai que tu le voyais comme un produit d'appel. C'est un produit d'appel qui vaut quand même 800 millions, je ne sais plus combien ils ont payé.
250 millions par an.
Par an, oui, mais c'est sur
C'est sur 3 ans.
Beaucoup moins cher que ce que devait payer Canal, d'ailleurs.
Ah, complètement.
Ils ont fait
ils ont vraiment plus que Mediapro qu'ils ont récupéré, donc c'est quasiment divisé par 3.
Mais moi je trouve que c'est une belle offre, même si comme Nico, je pense que moi j'aimerais une offre un peu style à la NBA où je m'abonne, parce que moi, bon, on va pas se mentir, moi je suis pour le PSG, Nico aussi. Moi j'aimerais m'abonner juste au match du PSG, c'est vrai. Mais après, de temps en temps.
Pour les droits, ça serait une catastrophe. Pour la
Ligue française,
pour
les droits, ça
tuerait. Tout le monde serait abonné à l'OM et au PSG, c'est tout.
Ça tuerait les autres clubs.
C'est ça, mais du coup, ça tuerait les autres et la Ligue 1 perdrait finalement d'intérêt parce que. Donc clairement, il faut soutenir aussi les autres clubs, c'est normal. Non, mais c'est vrai, moi je préfère payer et que les autres clubs aient aussi leur part du gâteau.
Parce que si le PSG n'a plus d'équipe pour jouer, qui joue contre d'autres équipes.
C'est pas comme ça qu'on gagnerait la Ligue des Champions, quoi.
C'est ça.
Donc moi je trouve que c'est quand même une belle offre. Donc après, question, c'est de savoir comment ça va être marketé, comment ça va être
un peu enrobé,
tout ça. Est-ce que ça va être bien produit?
Il y a beaucoup d'inconnus.
Roland Garros c'était bien produit.
Je crois que c'est MBS qui fait déjà la Coupe du Monde et l'Euro qui va produire les matchs. Donc ils sont pas embêtés, ils ont sous-traité, ils ont raison. Maintenant il y a des inconnus, par exemple. Kit de la diffusion 4K, c'était pas le cas à Roland Garros. Combien de personnes sur un seul compte? Est-ce que c'est un seul visionnage simultané ou est-ce qu'on peut le partager? Si on peut le partager, ça change tout, parce qu'on pouvait pas avec Téléfoot ou avec Canal partager le compte. Donc ça, c'est quand même un point assez important. Et après, moi, ce qui me dérange, c'est au niveau de l'enrobage et des programmes. Téléfoot, par exemple, c'était une chaîne avec des journalistes salariés, plein d'émissions, qui étaient quand même hyper qualitative, peut-être plus que Canal+, sur certains programmes. Là, Amazon a clairement fait savoir qu'il ne se considère pas comme une chaîne, que les journalistes seront pigistes, ça sera pas une chaîne créée avec des employés, et surtout, il y aura une seule émission le dimanche soir en direct d'un stade sans plateau. Donc, on perd quand même en qualité et en offre par rapport à ce que proposait Canal+.
Parallèlement, Canal lève le pied sur le foot.
Il n'y aura pas d'émission a priori de Ligue 1 sur Canal+.
C'est vraiment le divorce entre la Ligue et Canal.
Complètement.
En fait, pour revoir 100% des matchs, il faut avoir Bein.
On n'en sait rien, parce que Bein n'en veut pas non plus.
Ah d'accord. Donc il y a 20% des matchs qui sont dans la nature.
Actuellement,
en fait,
il y a 20% des matchs, dont le premier match en août, qui n'ont pas de diffuseur.
Ouais, ouais.
Et Amazon, a priori, a fait savoir qu'il ne comptait pas payer pour récupérer ces droits-là. Donc il n'y a aucun diffuseur, ni Bein ni Canal ne veut payer. Donc une nouvelle fois, la LFP s'est mise dans une sacrée histoire.
Hein. Mon Dieu,
j'ai hâte qu'ils ont quand même l'air de... Pour les consommateurs, Amazon, c'est plutôt une bonne affaire. Mais c'est vrai que les LFP, ils ont quand même l'art de se mettre dans des situations incroyables. Alors quand même, on parlait de Canal, il y a quand même la Ligue des Champions
sur Canal.
Voilà, sur Canal, ce qui fait que si on suit son équipe qui est en Ligue des Champions...
Oui, on gardera toujours son abonnement.
En fait, sur Amazon, c'est intéressant pour ceux qui ne sont pas en Ligue des Champions, je trouve.
Ouais.
Alors
oui,
que
bien sûr,
pour ceux qui sont en Ligue des Champions, finalement... avoir touché Canal aurait été plus intéressant, puisqu'évidemment, là, si on est fan du PSG, par exemple, évidemment, on va s'abonner aussi à Canal. Donc, en fait, paradoxalement, l'offre d'Amazon est bonne pour ceux qui suivent leur club qui n'est pas en Ligue des Champions, et ceux qui veulent voir la Ligue des Champions aussi auraient peut-être intérêt à tout avoir chez Canal. Ou tout avoir chez Amazon, peut-être, mais
tout
avoir
au même endroit. Il va falloir voir comment ça évolue, parce que ça ne va pas rester comme ça, mais il y a plus d'interrogations que d'autres choses. Pour
bon, écoutez, on fera le point à la rentrée, parce que là, il nous reste 2 minutes, et c'est dommage, parce qu'on avait deux... Mais on savait, je savais de toute façon
fallait pas nous lancer sur ce
que
sujet,
la Ligue 1 sur Amazon, ça allait nous prendre un petit peu de temps quand même. Évoquons malgré tout les Samsung, donc ce qui va se passer là durant cet été, avec une conférence de presse. Alors c'est pas la première fois, hein, ils aiment bien faire leur impact en plein milieu du mois d'août, quand tout le monde est sur la plage, il y a Amazon qui présente ses téléphones. Hein, c'est comme c'est ça.
Samsung, pas Amazon.
Pardon, Amazon.
Alors les téléphones Amazon,
ils ont essayé, ils ont arrêté.
Téléphone Amazon, ça n'a pas beaucoup marché.
C'est plié.
On leur fait plus de succès avec la Ligue 1 quand même. Samsung, pardon.
Oui, comme d'habitude, hein, l'événement Unpacked, il y en a un en début d'année et un en plein milieu du mois d'août, c'est leur spécialité. On parle de la date du 11 août, peut-être qu'elle sera confirmée au moment où vous écouterez cette émission, si vous l'écoutez dans plusieurs jours. Ça sera un événement, non pas dédié au Galaxy Note, c'est une première pour cette conférence d'août, mais dédié au smartphone pliant. On parle notamment du Z Fold 3 et du Z Flip 3. Peut-être qu'il y aura un autre modèle, mais bon, a priori, les rumeurs ne vont pas dans ce sens.
Donc, pliant dans l'horizontal.
Celui qui se transforme en tablette.
Pliant dans le vertical.
Exactement.
Donc, les deux modèles.
Pour les deux, il y aurait une grosse baisse de prix à prévoir. On tomberait dans les 1500
euros. À 10 euros, à peu près, le téléphone.
Non, on parle de 20-25% quand même. Donc, ça va chuter. Ça va les rendre potentiellement accessibles et ça va en faire
Des concurrents. Oui, équivalent à un iPhone haut de gamme, quoi.
On serait potentiellement pas loin du prix d'un S21 Ultra ou d'un iPhone 12 Pro Max, donc ça va être intéressant. D'autant plus qu'il y aura un stylet sur le Fold, a priori, donc ça va vraiment en faire un bon remplaçant du Galaxy Note. Et avec ça, on aurait deux nouvelles montres sous le nouveau système créé par Google et Samsung, des nouveaux écouteurs et potentiellement un Galaxy S21 FE. Raphaël en parlait, le secteur sur lequel faut attaquer Apple, c'est le 700-800 euros, et ça serait ce produit-là qui irait directement affronter Apple.
Le S21 FE, je trouve que c'est l'arme indispensable pour Samsung pour la
bien
fin
sûr.
De l'année, clairement.
Ça y est, ils ont trouvé leur...
C'est intéressant, je trouve, c'est toujours un produit intéressant.
Leur arme contre voilà. iPhone, ils avaient lancé ça l'année dernière. Hein.
Sur les pliables, peu importe.
Pliant.
moi, je m'interroge toujours, en fait, sur la viabilité de ces produits qui sont des prouesses technologiques qui... Je suis assez... Enfin, là, pour le coup, c'est des produits d'image, parce qu'on voit des campagnes de communication, il y a les Place de la Concorde, mais des campagnes télé qui doivent coûter une fortune sur ces téléphones qui, de fait, ne se vendent pas, enfin, se vendent peu, enfin, c'est normal, à 2000 euros. Mais effectivement, en fait, moi, je me demandais comment ils allaient faire pour baisser les prix, parce qu'il y a un moment, on ne peut pas proposer un pliant et un pas pliant au même prix. Je veux dire, il y a un moment, il y a deux écrans, c'est pas... Donc, la solution, c'est de peut-être faire un peu baisser en spec, ou en tout cas, ne pas mettre toutes les dernières specs, et privilégier le form factor.
Et peut-être qu'il y a aussi une maîtrise industrielle qui fait qu'ils arrivent à baisser les prix de manière naturelle.
Oui, bien sûr.
Voilà. Mais moi, je suis curieux de voir ces téléphones avec un prix un peu plus abordable pour voir si vraiment il y a une appétence. Parce que là, on peut pas savoir s'il y a une appétence pour ces produits. Ils sont tellement chers qu'on peut pas, il n'y a pas de représentativité. On ne sait pas si les gens aiment ou pas. Je veux dire, il y a les férus techno qui ont l'argent, qui les achètent, mais ça ne représente rien. Mmh. Et donc, moi, je suis curieux de savoir, de voir un de ces téléphones peut-être subventionné à un jour 300, 400, 500 euros peut-être, et de voir s'il y a quelque chose qui crée là-dessus. Parce que pour le moment, ça fait 3 ans, on les connaît, mais ça reste quand même le statut d'OVNI. Finalement, c'est un OVNI pérenne, mais ça reste un OVNI.
Et c'est potentiellement l'année test. C'est-à-dire que là, si ça foire avec la baisse de prix et que les gens n'en veulent pas, ça voudrait dire que le pliant n'est pas l'avenir et que Samsung et les autres sont en train de se planter.
Jusqu'au jour où Apple sortira son pliant, et là, ça sera le début de l'histoire.
Regarde, ça, mais regarde le capteur d'empreinte sous l'écran. Ça fait 4 ans qu'on l'attend. Et Apple, ils ont peut-être décidé de passer à côté. Je veux dire, Apple, c'est quand ils produisent un téléphone, ils en produisent 90 millions. Donc, il y a un moment, il faut que ça corresponde à tout le monde.
Certain, mais c'est clair. Voilà, et puis donc, on enterre le Galaxy Note, hein, ça c'est lié, c'est fini.
En tout cas pour cette année.
Qu'on rebaptise d'ailleurs, hein, le Galaxy Note, mais sans E, Galaxy Note. C'était là. Petit mot de la fin
pour finir voilà. Là-dessus, du coup.
Voilà,
pour avoir
une petite note de gaieté. Hein. C'était bien, non?
Oui, très bien.
Merci de nous avoir suivis. Merci à tous les deux, Raphaël et Nicolas. Passez de bonnes vacances, reposez-vous bien. Et puis, on sera là de retour à la rentrée, hein, bien sûr, avec évidemment encore beaucoup d'actu à commenter. Et puis, vous restez avec nous. Hein, de quoi je me mêle n'est pas terminé, puisque dans un instant, on va décoller, monter à 80-90 km d'altitude avec Richard Branson et évoquer en compagnie d'Antoine Meunier le tourisme spatial qui prend son envol. C'est qu'elle le dit. On en parle dans un instant, à tout de suite.
BFM Business et 01 TV présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà, le retour de quoi je me mêle. C'est le dernier De quoi je me mêle de la saison. On va se prendre quelques petites semaines de vacances pour revenir frais dispo pour la dernière semaine d'août. Mais pour terminer, écoutez en fanfare, j'allais dire en feu d'artifice, quasiment, c'est l'actualité. Eh bien, on va revenir sur l'exploit spatial qu'a réussi Richard Branson et toute son équipe avec ce vol suborbital. Alors, effectivement, il faut avoir quelques centaines de milliers de dollars dans la poche, entre 200 et 250 000. Mais pour ce prix-là, les amis, vous avez sans doute le voyage de votre vie. Pour en parler, j'accueille quelqu'un que vous connaissez, qui est notre expert spatial dans De quoi je me mêle. C'est Antoine Meunier. Bonjour Antoine.
Bonjour François.
Merci d'être avec nous Antoine pour rentrer un petit peu dans les détails de ce qu'on a vécu ce week-end. Rappelons que tu es journaliste à La Chronique Spatiale, hein, un site que je vous invite à découvrir. Voilà tout simplement lachroniquespatiale.com, tout accroché avec des articles, plein de sujets passionnants liés à ce thème hein, qu'on aime beaucoup ici. Et donc tu as justement commis un article sur ce qui s'est passé ce week-end. On va revenir aussi sur la compétition entre Branson, Bezos, et puis aussi Musk hein, qui se prépare avec son voyage spatial, même s'il a des ambitions encore plus folles hein, que les deux autres. Peut-être pour revenir aux bases, qu'est-ce qui s'est passé le 11 juillet dernier, Antoine?
Alors, le 11 juillet dernier, on a fait voler le patron de Virgin Galactic, le fondateur Richard Branson. Ça fait quand même longtemps hein, qu'il attendait cette opportunité de voler dans l'espace. Il est monté à plus de 80 km d'altitude. C'est pas un vol très très long parce qu'entre le moment où on largue l'avion, le Spaceship Two depuis son avion porteur, et le moment où l'avion va se poser, il s'est écoulé à peu près une quinzaine de minutes. C'est très peu, mais au cours de ces 15 minutes, on vit quand même des sensations fortes assez intenses. On accélère à près de Mach 3. On va supporter 4 fois son poids pendant la montée vraiment aux extrêmes limites de l'atmosphère terrestre. Et puis après, on va admirer la courbure terrestre. On va regarder le paysage au travers des hublots qui sont installés sur l'appareil.
Ouais.
C'est une sensation, on le voit d'ailleurs, Branson pendant son vol.
Il est complètement émerveillé.
Oui, je pense qu'il ne le serait pas de voir la Terre depuis une telle altitude.
Et puis c'est un rêve de milliardaire, mais quel rêve quand même.
Oui.
Parce que ça fait
oui.
des années, comme tu le disais, qu'il souhaitait mettre en place donc cette expérience. Hein, c'est une expérience,
absolument.
Ce voyage qui est aussi une expérience commerciale et avec un business derrière, hein, on va y revenir. Mais alors, pour qu'on comprenne bien, c'est un vol en deux étapes. Hein. Donc, il y a d'abord un avion. Explique-nous un petit peu, on voit
alors,
un avion un peu bizarre avec...
Alors, cet avion un peu bizarre qui a deux carlingues, c'est le White Knight. C'est l'avion porteur qui va amener le Spaceship Two à peu près à 13-14 000 mètres d'altitude.
Plus donc qu'un avion de ligne qui lui plafonne à 10 000 mètres à peu près.
Un avion de ligne, c'est grosso modo 11 000, 12 000 mètres d'altitude. Mais l'avion de ligne, il décolle tout seul depuis le sol. Tandis que le Spaceship Two, ce n'est pas un avion classique, hein, il faut être clair. C'est un avion fusée. En fait, Branson, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend à son compte un vieux principe qui a été utilisé au début des années 60 avec un avion-fusée qui s'appelle le X-15. C'est une espèce de long tube noir équipé d'un moteur-fusée. Et on le voit, cet avion, dans le film First Man, qui retrace la vie de Neil Armstrong.
Si vous êtes avec nous à la télé, c'est ce qu'on voit là.
Voilà, c'est exactement ça.
C'est un avion-fusée.
C'est un avion-fusée. Alors là, c'est le X-1 qu'on voit. On va dire que c'est le prédécesseur, du X-15.
On a ressorti des images d'archives, voilà. De quoi je me mêle.
Mais le X-1, c'est l'avion dans lequel Chuck Yeager, en 47, a passé le mur du son. Donc on est encore plus loin. Mais ce principe, il est très ancien de l'aérolargage. Branson n'a fait que le réactualiser. Il a fallu mettre au point un appareil, donc le White Knight 2. Il y a eu un White Knight 1. Alors c'est un petit peu compliqué, mais le spaceship, à la base, c'était un tout petit appareil, le Spaceship One, et qui est monté à peu près à 100 km d'altitude en 2004. Et quand Branson a vu ça, il a dit il faut que je fasse la même chose, avec dans la perspective d'ouvrir un business pour le tourisme spatial.
Donc il y a un premier avion qui décolle, qui monte à 13-14 km
d'altitude.
Là,
on largue l'appareil.
Donc, en fait, Branson et son équipage étaient en dessous de cet avion-là.
Ils étaient largués. Ouais. Ils étaient largués par l'appareil, mais une fois l'avion largué, on met à feu le moteur-fusée, qui ne va pas fonctionner très longtemps, à peine une petite minute. Mais au cours de cette minute, on va quand même atteindre Mach 3, c'est-à-dire quasiment 3500-3600 km/h.
On gagne 70 km d'altitude.
Et là, on va grimper à peu près à 60-70 km. Le moteur se coupe, l'avion va continuer sur sa lancée.
Sur sa poussée, c'est
sur
ça
sa lancée, sur, ouais. il est poussé, et puis progressivement, il va incurver sa trajectoire pour redescendre vers la Terre. Mais au moment de au sommet de cette courbe, là, on va pouvoir vivre quelques minutes d'impesanteur. Ce n'est pas très très long, hein. C'est 2-3 minutes d'impesanteur. On le voit d'ailleurs sur les images. Et on se comporte exactement comme un astronaute. Alors l'intérêt, c'est de voir aussi la Terre depuis le hublot. Et ils ont parfaitement compris que pour que l'expérience soit réussie, il faut avoir des hublots présents sur toute la carlingue.
Ça, c'est un défi technique, ça ? Parce que c'est des fragilités qu'on rajoute à la carlingue, non ?
Ce sont des fragilités. Il faut dire aussi quand même que l'avion a connu des problèmes de structure.
Il y a eu des décès.
Il y a eu un décès.
Expérimentations,
il y a eu un décès en 2014, puisque le premier Spaceship Two, quelques instants après le largage, il s'est disloqué suite à une erreur humaine qui aurait été commise par un des deux pilotes. On ne dira pas lequel, mais bon, cet appareil, un premier appareil a été perdu, donc suite à une erreur humaine.
Ça a mis un coup dur, hein, d'ailleurs.
Ça a mis un petit coup dur
de Richard Branson, qui a attendu pas mal de temps avant de reprendre un peu le...
Il s'est écoulé près de 2 ans, ouais, avant qu'un nouveau Spaceship Two soit de nouveau disponible. On est passé par toute une phase de test. Il faut quand même aussi préciser une chose, c'est que le vol de Branson, ça ne signifie absolument pas l'ouverture des lignes régulières dans l'atmosphère terrestre. On est encore loin de l'ouverture. Ça n'aura sans doute lieu que l'année prochaine. Pourquoi ?
C'est-à-dire, en fait, l'offre commerciale de ce que Branson a vécu, c'est
absolument
ça, hein, que tu veux dire ?
Absolument. A priori, en théorie, Virgin repousse sans arrêt l'ouverture des vols, mais ça ne devrait maintenant pas avoir lieu avant 2022, parce qu'il y a encore des tests qui vont être faits. Il y a un vol qui est prévu avec des officiers de l'armée de l'air italienne. Et il faut préciser que l'activité tourisme spatial, elle est pas rentable seule. Donc il y a un programme de la NASA qui s'appelle Flight Opportunities qui va permettre de faire voler des charges utiles sur le Spaceship Two, des charges utiles qui nécessitent pas un temps très important d'impesanteur, 2-3 minutes, c'est suffisant pour avoir des données en conséquence. Donc il y aura sans doute un mix d'un côté vol suborbitaux avec des touristes spatiaux, on dit des space flight participants, et il y aura vraisemblablement aussi des vols avec des charges institutionnelles. D'accord. Ce qui permettra sans doute de rentabiliser
la chose, mais sur de nombreuses années, j'imagine. J'étais en train de penser à une chose. Finalement, avec cette technologie de vol, on pourrait en fait imaginer des vols transatlantiques hyper rapides, finalement, non? Alors, parce que quand on est à Mach 3 et qu'on monte aussi haut et qu'on redescend, on pourrait traverser les continents en quelques minutes,
oui,
finalement,
absolument.
Non?
Oui, l'idée, c'est...
Mais ce n'est pas réalisable.
Ce n'est pas réalisable tout de suite, mais peut-être que vers 2030-2035,
on est d'accord.
Là, on pourrait envisager d'avoir des vols transatlantiques.
Parce qu'on peut imaginer, voilà, on part du Nouveau-Mexique.
C'est le but.
On monte à 60-70 km d'altitude, on est à Mach 3 et on redescend sur Paris ou sur l'Europe en quelques instants, quoi, finalement.
Ça permettrait effectivement de faire un vol, on va dire, Paris-New York en quelques heures au lieu de 8 heures, peut-être en 2 heures, je schématise volontairement.
Je pense que ça serait même moins que 2 heures, parce qu'aujourd'hui, à l'époque, le Concorde, c'était 3 heures. Donc,
c'était 3h30 même, ouais. 3h30 de mémoire. On pourrait envisager de faire ce type de vol, mais je ne pense pas que ce soit pour tout de suite, mais c'est aussi l'idée. Branson a quand même c'est une vision à long terme, d'avoir un moyen de transport qui permette de révolutionner le transport aérien. Alors, est-ce qu'on y parviendra? Là, pour l'instant, je ne sais pas. Mais l'idée, c'est vraiment de tendre vers ça, parce qu'il y aura un Spaceship 3 et on évoquerait même un Spaceship 4, mais ça, c'est pas pour tout de suite.
D'accord. Mais puis rappelons que Branson, alors je sais plus si la compagnie aérienne Virgin Atlantic lui appartient toujours, mais il avait cette compagnie aérienne Virgin. Hein,
oui, bien sûr. Oui, oui, voilà, absolument.
Qui a des vols transatlantiques, traditionnels, on va dire.
Oui.
Ça, c'est Branson. OK, bravo, il a coché toutes les cases. Enfin, il a coché à moitié une case quand même, parce que on voit que le projet de Jeff Bezos est peut-être un tout petit peu plus ambitieux, Antoine, parce qu'il monte un tout petit peu plus haut.
Alors,
visiblement. Et d'ailleurs, ça a été un peu la polémique de ces derniers jours.
Effectivement. En fait, il y a deux définitions pour parler de la frontière entre l'aérien et le terrestre. La définition américaine, ça va être 80 km. La définition, selon la norme de la Fédération aéronautique internationale, c'est de fixer à 100 km la frontière entre l'aérien et l'espace. C'est ce qu'on appelle la ligne de Kármán. Alors, pourquoi 100 km? Parce qu'on estime qu'au-delà de 100 km, il y a les molécules d'air dans l'atmosphère n'offrent plus de résistance à une résistance aérodynamique suffisante. Donc, partant de là, eh bien, on considère qu'au-delà de 100 km, on est passé dans le domaine spatial.
D'accord. Donc là, Branson, on était à quoi, 80 ?
On était à 84-85 km à peu près. Mais on peut considérer malgré tout qu'il est allé dans l'espace.
Mais Bezos va aller un tout petit peu plus haut son projet New Origin.
Alors, Bezos va aller beaucoup plus haut, enfin, un petit peu plus haut, 100-105 km d'altitude, avec une fusée et une capsule. L'ensemble s'appelle New Shepard. On voit Jeff Bezos actuellement. New Shepard, en fait, ça reprend un principe qui a été utilisé dans le cadre du programme Mercury au tout début des années 60. On voit d'ailleurs à présent les images du vol d'Alan Shepard.
Si vous êtes avec nous en vidéo, hein, là, l'audio, voilà. Bon, c'est imaginé. Voilà. Alors, imaginez des fusées.
Voilà, imaginons une fusée, au sommet, une petite capsule qui est vraiment minuscule. Le pilote se glisse dedans avec difficulté. Et on est monté, pareil, à 170-180 km d'altitude pour un vol de 15 minutes. La fusée était un petit peu plus puissante, mais pas assez pour envoyer le vaisseau en orbite. Donc aujourd'hui, ce que fait Bezos, il reprend le même principe que Mercury. Son vol doit avoir lieu le 20 juillet.
Donc là, c'est une fusée ?
C'est une fusée.
D'accord, donc on n'est plus sur le concept de ces deux avions.
On est vraiment sur un vaisseau qui est lancé par une fusée.
D'accord.
Qui possède un système de secours en cas de problème.
Alors, c'est quoi le système de secours ?
En fait, c'est que la capsule va être éjectée s'il y a un problème sur le lanceur.
Sur le lanceur.
Voilà.
D'accord. Donc, admettons qu'il y ait une explosion, etc. Il y a des systèmes informatiques qui vont détecter...
Mettons que ça se passe en vol, s'il y a un système informatique qui va détecter un problème...
Et là, paf !
Et là, la capsule va être éjectée. Le système a été testé et il fonctionne parfaitement. Par contre, le vol avec Bezos, ça va être le premier avec des passagers à bord. Il y a même une ancienne inspectrice du NTSB, c'est l'équivalent du BEA, qui va voler à bord de cette capsule.
Mais qui est plus toute jeune, on va dire, en plus.
Bah, elle, a, Elle a quand même 82 ans, mais c'est extraordinaire,
c'est génial,
de se dire qu'elle va pouvoir voler.
Et puis quel coût marketing aussi pour
C'est un coût marketing très important. Et il faut rappeler que Wally Funk, c'est son nom, faisait partie d'un programme qu'on appelle Mercury 13. En gros, c'était au début des années 60. On a recruté un groupe de femmes pilotes qui ont subi exactement les mêmes tests que les astronautes
D'accord.
du programme
Mercury. D'accord, donc elle est prête, en fait.
Oui.
Même
oui.
si elle a...
Sinon, je pense pas que Bezos l'aurait.
Mais cela dit, on n'est pas obligé d'avoir des entraînements aussi durs que les spationautes, puisque à terme, tout le monde pourra, enfin tout le monde.
Alors,
je veux dire, à partir du moment où on a une santé correcte, on pourra faire ce type de voyage.
Alors, tout le monde ne peut quand même pas supporter une accélération de 4G. C'est beaucoup, 4G, 4 fois son poids. On s'en passait moitié de personnel. J'ai fait un vol parabolique il y a un petit peu moins de 2 ans maintenant. Mm-hmm. En montée, l'avion était à peu près à 2G, c'est-à-dire 2 fois son poids. C'est parfaitement supportable, mais quand même,
on le sent,
on le sent passer.
On
m'avait même demandé de passer un électroencéphalogramme pour voir si j'étais parfaitement, mon cœur allait très bien. Heureusement, mon cœur va très bien.
Électrocardiogramme.
Électrocardiogramme. Donc, il y aura quand même aussi une préparation pour, chez Branson, comme chez Bezos, je crois, il y a une préparation d'une semaine qui permet
De
voir si tout va bien, de s'acclimater quand même au vol. Il ne s'agit pas de subir l'entraînement de Thomas Pesquet, ça n'aurait pas de sens, mais il s'agit quand même de vérifier que vous pouvez monter dans un dispositif qui va monter très haut.
Donc, Bezos, une fusée qui décolle.
Une fusée qui décolle, qui redescend sous parachute. La capsule va ensuite redescendre sous parachute.
À 100 km d'altitude, il y a quoi ? Il y a le largage
Alors,
de la...
C'est à peu près à 70-80 km d'altitude.
La capsule qu'on voit si vous êtes avec moi en vidéo,
elle va continuer sur sa lancée, elle va continuer sur sa lancée. On va suivre une courbe qui va nous permettre de profiter d'un temps d'apesanteur de 3-4 minutes maximum. C'est vraiment le maximum. On a des hublots très grands.
Plus grands que sur le spaceship.
Oui, alors ils sont présentés comme étant les plus grands et ça permet aussi de voir la Terre à une altitude très, très importante. Mais ce qui est intéressant...
Et comment il redescend ce truc-là ?
Sous parachute.
Donc,
sous parachute, ils vont s'ouvrir à peu près à 15 000 mètres.
Donc, en fait, la capsule redescend.
La capsule redescend, exactement comme une capsule spatiale.
Et à 15 000 mètres,
à peu près.
Donc, en fait, il y a une chute libre, en quelque sorte.
Il y a une chute libre, mais à un moment donné, les parachutes vont s'ouvrir pour freiner le vaisseau et se poser en douceur dans le désert. On redescend exactement comme un vaisseau Soyouz ou alors comme le vaisseau Apollo des années 70.
Et là,
sauf que le vaisseau Apollo, c'était en mer.
Et si les parachutes ne s'ouvrent pas, là, c'est embêtant, non ?
Ça peut être embêtant.
Mais j'imagine qu'il y a des
redondances. Oui, il y a des redondances. Enfin... Le vaisseau a quand même été testé 15 fois déjà.
D'accord.
100 personnes
sans
bord.
Sans échec.
Mais à chaque fois, s'il y avait eu des passagers, on les aurait récupérés. Il n'y a eu aucun échec avec la capsule.
Le 20 juillet, si tout va bien. Hein, au moment où on enregistre cette émission, donc voilà, ce lancement n'a pas eu lieu de Jeff Bezos.
Non.
Si les conditions météo sont réunies, toujours important. Hein, ça,
alors, c'est toujours ça,
important.
Mais le 20 juillet, c'est la date anniversaire du premier pas sur la Lune, Apollo 11. Mais si Bezos devait repousser de 24 heures le vol, il est malgré tout gagnant du point de vue marketing. Pourquoi ? Parce que le 21 juillet 61, c'est l'anniversaire du deuxième vol suborbital américain.
On se raccroche un peu au calendrier.
Mercury 4. Donc, dans tous les cas, pour moi, Bezos, il est gagnant.
Antoine, d'un côté, 200 000 euros, 250 000 $ le billet pour Branson, plusieurs dizaines de millions d'euros pour Bezos. Comment expliquer ce différentiel de tarif ?
Non, le tarif pour monter dans la capsule, c'est à peu près, comme dans le Spaceship Tools, ça devrait être à peu près le,
Le
même. Non, c'est 200.
Autant pour moi, je croyais que c'était beaucoup plus cher, en fait.
200-250 000 $, plus ou moins.
D'accord.
Ça coûterait plusieurs dizaines de millions si on envisageait un voyage vers l'ISS. Là, ce serait beaucoup plus cher puisque c'est un voyage orbital.
Et une autre histoire, en fait.
Et encore une autre histoire.
D'accord.
Mais c'est une aventure dans laquelle ni Branson ni Bezos n'est engagé. Eux, c'est vraiment, ils sont présents l'un et l'autre sur le segment des vols suborbitaux.
Est-ce que ça, c'est la première étape vers une autre dimension, on va dire, vers d'autres rêves de ces gens-là. Est-ce que, voilà, tout comme Elon Musk qui va aller sur Mars, Bezos ou Branson ont d'autres volontés, d'autres rêves, bah, d'aller par exemple sur la Lune ou...
Jeff Bezos, lui, était engagé pour, dans la compétition NASA pour livrer le futur alunisseur du programme Artemis, c'est-à-dire le programme de retour vers la Lune. Ça, c'est un premier point. Mais moi, ce que je retiens, c'est que ce n'est pas uniquement un caprice de milliardaire, quelque part. Il est quand même extrêmement intéressant de voir qu'il y a des gens, des milliardaires qui peuvent se le permettre.
Des privés.
Des privés qui sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour ouvrir un pan, nouveau pan de l'astronautique. Et ça, c'est plutôt,
c'est
plutôt encourageant. Moi, j'aimerais bien voir une initiative du même genre en Europe,
en
par
France,
exemple.
En Europe, ça, voilà. C'est clair. C'est vrai qu'on parle beaucoup de souveraineté dans tous les domaines.
Par exemple, oui.
Là, on voit qu'on est complètement largué aussi... sur ce sujet.
On a un risque d'être marginalisé d'ici 10 ans.
Hein. Alors qu'on a un vrai savoir-faire dans l'aérospatial.
Alors qu'on a un savoir-faire, qu'on a
avec
une...
Avec Arianespace, etc. Voilà. Enfin bref, voilà. Mais peut-être que ça va nous donner une espèce d'électrochoc.
Ça peut être un coup d'accélérateur, oui.
Antoine, on n'a pas parlé d'Elon Musk, qui aussi, lui, a des ambitions très fortes dans le monde de l'espace. Est-ce qu'il a son projet aussi, tout comme Bezos et Branson ?
Alors lui, son vaisseau à lui, c'est le Crew Dragon, mais c'est un vaisseau qui lui fait la jonction entre la Terre et l'ISS, donc un vaisseau orbital. Quelque part, c'est un petit peu l'arbitre de tout ça. D'ailleurs, il a apporté son soutien à Branson il y a pas très longtemps. Je crois même qu'il a pris un billet pour voler à bord de Spaceship Two. Il est vraiment donc sur le segment des vols orbitaux.
Donc là, plus haut encore.
Plus haut, l'ISS.
Mais est-ce qu'il y a, une particularité commerciale? Est-ce qu'on peut imaginer commercialiser ces vols suborbitaux?
Oui,
mais orbitaux.
Oui, il faut préciser que le Crew Dragon, la NASA donc, l'utilise pour envoyer ses astronautes vers l'ISS, mais elle n'est pas propriétaire du vaisseau. Elle ne fait que louer un service. Donc, dans les faits...
Il fait ce qu'il veut.
Dans les faits, Musk fait ce qu'il veut. Et d'ailleurs... Il y a des vols orbitaux qui vont être commerciés. Il y en a un premier qui sera commercialisé à la rentrée. C'est le vol Inspiration 4 avec le milliardaire américain Jared Isaacman. Ça sera un vol assez court, 3 jours, qui ne se connectera pas à l'ISS, mais qui permettra à 4 personnes qui ne sont pas des astronautes de métier de faire un vol en orbite autour de la Terre.
Et là, ça coûtera plus cher.
Là, ça coûte beaucoup plus cher, oui.
Voilà.
Ça coûte
là, c'est là où on est à quelques dizaines de millions.
Le lancement sera effectivement beaucoup plus cher. Mais une autre société qui s'appelle Axiom Space a acheté 4 vols de Crew Dragon pour rejoindre l'ISS. C'est prévu pour 2022, à partir de 2022 jusqu'à fin 2023.
Est-ce que ces voyages spatiaux resteront, à ton avis, des rêves de milliardaires? Est-ce que demain, on peut imaginer que les prix s'effondrent à tel point que peut-être qu'en économisant un an ou deux, des personnes comme toi et moi pourrions s'offrir ce type de choses?
Alors, un tourisme de masse dans l'espace, sans doute pas. Non, mais on estimait, je crois, à quelque chose comme 6 milliards de dollars le marché du tourisme spatial d'ici 2030, selon différentes sources. C'est pas grand chose. Le marché du tourisme en France, je crois, l'an dernier, c'était de l'ordre, ou non, 2019, c'était entre 40 et 50 milliards.
Oui, d'accord.
Entre 40 et 50 milliards
d'euros.
C'est pas du tout les mêmes échelles. Un tourisme de masse pour Monsieur Tout-le-Monde, dans les 10 ou 15 ans à venir, personnellement, moi, j'y crois pas. Mais pour des personnes qui ont la possibilité de s'offrir une telle aventure, ça paraît déjà beaucoup plus crédible. Donc, pour les vols suborbitaux, sans doute, oui. Pour des personnes donc, qui peuvent déjà se payer cette prestation. Et pour les vols orbitaux, à mon avis, il faudra attendre encore un petit peu.
Encore un petit peu. Parce qu'on parle beaucoup des Américains, mais est-ce qu'il y a d'autres projets de spaceport, par exemple, je sais pas moi, en Asie, au Moyen-Orient? Je crois qu'il y a pas mal de choses.
Il y a des choses qui se préparent, mais dans l'immédiat, les deux principaux prestataires du tourisme spatial, ça reste Richard Branson et ça restera aussi Jeff Bezos, qui aurait dû être le premier, mais il s'est fait passer devant par Branson.
Voilà. Écoutez, bah oui, il y a une compétition entre milliardaires, hein, c'est comme ça.
Mais c'est bien ça.
Oui, bien
ça,
sûr.
Ça fait une émulation et ça permet de stimuler le secteur.
Bien sûr, je trouve que
c'est plutôt une bonne chose.
Juste une chose, quand je dépense 200 000 ou 250 000 dollars pour partir comme ça pendant quelques minutes dans l'espace, est-ce que j'achète un package avec tout un entraînement, etc. Tout est compris dans le prix ou est-ce qu'il faut rajouter encore des options?
Non, il y a quand même le vol suborbital. C'est la cerise sur le gâteau. Il y a quand même aussi toute une prestation derrière. Vous n'arrivez pas au spaceport.
Deux heures avant
pour grimper ensuite dans le spaceship. Tout a été marketé en fait.
Il y a une espèce de packaging. Comme si tu t'offrais une semaine de croisière.
En gros, c'est à peu près ça.
D'accord.
C'est à peu près ça. Et puis surtout, on prépare le corps à vivre une accélération de 4G. Je le disais tout à l'heure, c'est pas rien. Hein, quatre fois son poids. Et puis à la redescente, vous avez une brève décélération où là, vous supportez 6 fois votre poids. Alors, Branson a très bien vécu ça. On le voit d'ailleurs quand il sort du Spaceship Two. Il se met à sauter en l'air comme un gamin.
Alors, il a plus de 70 ans.
Alors, il a quand même plus de 70 ans, mais il est très sportif.
Oui, bien sûr, il est en pleine forme.
Il pratique le kitesurf. Mm-hmm. Il a l'habitude des sensations fortes.
Il y a cette petite polémique concernant le vélo. Hein, son trajet en vélo qui aurait été préenregistré quelques jours avant.
Oui, enfin,
c'est petite maladresse.
C'est du marketing. C'est du marketing. Il y a tout un habillage marketing derrière, mais quelque part c'est une sacrée performance. Il faut saluer ça malgré tout.
Oui. Eh bien voilà. Écoutez, ça nous fait rêver. On ferme les yeux et puis on imagine peut-être un jour être à la place
Pourquoi
de Branson
pas.
Et Bezos.
Pourquoi pas. Voilà. D'autant qu'il y a une loterie.
Il y a une loterie.
Il y a possibilité de gagner un billet à bord de Spaceship Two.
Merci beaucoup Antoine pour ces quelques minutes de rêve.
Merci François.
Journaliste à la Chronique Spatiale, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas. Hein, la Chronique Spatiale pour avoir des articles hyper détaillés, passionnants sur tous ces sujets. Voilà, De quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis à la fois en vidéo sur 01TV, la chaîne, sur 01net.com, sur la chaîne YouTube de 01TV, sur BFM Business, et puis en audio, en podcast et sur BFM Business le dimanche. On s'arrête quelques semaines, on revient, ça sera pour le dernier week-end d'août. D'ici là, bien sûr, le plus important, eh bien, profitez de vos vacances. Voilà, un bel été à vous toutes et à vous tous, et à très vite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et 01TV.